nature du relativisme, on ne va pas nous éliminer, je dirais, physiquement. Bon, peut-être qu'il peut y avoir un petit... Bon, mais non. Mais on va nous éliminer en nous disqualifiant. Oui, on va nous éliminer par le jeu actuellement médiatique. Donc tout de suite, voyez le professeur Jérôme Lejeune. On ne pouvait pas l'attaquer de front, mais on va le disqualifier. Donc on va vous traiter de tout, intransigeant, etc. Donc tout de suite, fondamentaliste. Hein. Voilà, donc tout de suite, nous sommes des fondamentalistes. Donc, après la marche pour la vie, hein, notre député lui-même a marqué dans son blog, donc nous sommes des intégristes, nous sommes Front National, nous sommes etc. Or, le Front National n'est pas contre la loi Veil. C'est pas le Front National qui a marché pour défendre la vie. Hein, Marine Le Pen l'a dit, elle n'est pas contre la loi Veil. Bon, donc là aussi, ne nous laissons pas disqualifier. Bon, ce matin, Golias part en guerre contre les lycées militaires. Bon, alors, je trouve qu'il est important pour ceux qui sont impliqués ici de le savoir. Parce que Golias, comme le canard enchaîné, est très bien renseigné et souligne bien le combat actuel. Il faut supprimer les lycées militaires. C'est clair, c'est écrit dans Golias. Et pourquoi? Parce que ce sont des tradis landes. C'est-à-dire, c'est là où on transmet encore les valeurs traditionnelles et on veut avoir une armée qui ne transmet plus les valeurs traditionnelles parce que l'armée doit être au service du politique et l'armée ne doit plus maintenant transmettre des valeurs morales. C'est clair, c'est écrit dans Goliath aujourd'hui. Vous voyez ? Donc là aussi, nous voyons que nous sommes en plein dans le combat, dans les dictatures actuelles. Hein ? Voilà. Alors, si vous avez des réactions... Des questions de... Oui.
Comment est-ce qu'on est contre le constructivisme?
Alors, le constructivisme, eh bien, frère Jean-Baptiste, puisque c'est toi qui nous a lancé sur le constructivisme, tu vas répondre.
J'ai simplement posé une question à plus avisé que moi, parce que je ne suis pas du tout compétent dans la matière. Je sais simplement que c'est un système qui est en plein développement, et qui veut montrer qu'il n'y a pas de loi naturelle universelle, mais que les principes moraux sont des constructions dues au développement de l'homme à travers sa culture.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a étudié cette question de constructivisme ?
Sa source dans l'empirisme anglais, c'est-à-dire dans l'idée selon laquelle nous pouvons savoir des choses, par exemple, qui fait jour ou qui fait nuit, parce que nous le voyons avec nos yeux, nous touchons avec nos sens, mais notre intelligence n'a pas la capacité de saisir des choses universelles, c'est-à-dire, au fond, je ne sais pas si demain le soleil se lèvera, il peut très bien avoir disparu pendant la nuit. Donc, on ne peut pas établir de vérité universelle. Donc, d'une part, il faut être tolérant avec tout le monde, puisque finalement chacun peut se construire ses propres idées, ses propres représentations du monde. Et d'autre part, les valeurs morales que nous établissons, sur lesquelles nous nous mettons d'accord, servent seulement à vivre ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, pourquoi est-ce qu'on vole pas? Eh bien, parce que si on volait, la vie sociale serait impossible, et même les voleurs, en fait, ne se volent pas entre eux, même les menteurs exigent qu'on se dise la vérité, non pas parce que ce sont des valeurs universelles, mais parce que ce sont des moyens pratiques pour vivre ensemble. Donc chaque société va se définir par un certain modèle, un certain ensemble de valeurs qui, dans le cadre de cette société, mais seulement dans le cadre de cette société, permettent aux hommes de vivre ensemble. Voilà. Donc l'idée à la base, c'est que puisque l'intelligence est incapable de découvrir des principes universels et certains, c'est la volonté qui va décider du bien et du mal, mais pas d'une manière pour le plan arbitraire quand même. Donc on échappe un peu à une sorte d'arbitraire, on pense échapper à une sorte d'arbitraire, pas complètement arbitraire, mais la volonté construit ses valeurs dans le but de pouvoir vivre ensemble. Donc ça veut dire d'une part qu'il n'y a pas de morale en dehors de la vie sociale, c'est-à-dire que la morale est déterminée par la vie sociale, et puis ça veut dire que cette morale est évolutive, évidemment, et finalement pas s'imposer à tous. Voilà. Il me semble qu'un des piliers du constructivisme, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme, c'est-à-dire le fait, on en parlait un peu, et c'est intéressant d'y réfléchir par rapport à la question militaire, c'est-à-dire finalement il s'agit d'être efficace, il s'agit de pouvoir atteindre nos fins, et peu importe les moyens qu'on emploie.
Voilà. Alors donc, comment lutter ? Ben, tout simplement en étant témoin de la vérité, en étant témoin aussi de la conscience morale. Et c'est vrai que je pense à une chose en vous entendant parler. Bon, au sujet de... Rappelez-vous la fermeté de Jean-Paul II lorsqu'il a affronté George Bush pour dire que la guerre en Irak n'était pas légitime. Voilà, parce que là, justement, cette guerre, bon, je n'ai pas tous les moyens pour savoir pourquoi on l'a lancée, hein, mais on voulait l'imposer, et aujourd'hui, vous voyez que, eh bien, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, il y a une question de vérité, il y a une question aussi d'obéissance à la vérité. Alors, le père Cantala Messa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, donc il prêche même au pape, vous voyez. Alors donc il faut quelqu'un de très simple pour prêcher même au pape. Oui, parce que si on est compliqué, on ne prêchera jamais. Donc on a fait appel à un franciscain qui est charismatique. Donc quand on prêche au pape, on dit tout simplement ce qui est dans l'évangile, hein, on ne va pas chercher à... Le pape en sait plus que nous. Il va pas apprendre quelque chose au pape. Donc voilà. Alors, ce prêtre a donné pendant l'Avent une homélie très intéressante pour justement nous faire voir que c'est pratiquement nous sommes en face de deux conceptions complètement différentes qui n'arrivent pas à se retrouver entre le scientisme et entre justement ceux qui sont pour la lumière. Alors il disait voilà, il y a les oiseaux de nuit qui sont faits pour voir la nuit. C'est les oiseaux diurnes. Donc ils ont des yeux pour voir la nuit, ils voient la nuit. Et puis il y a les oiseaux de jour, qui eux sont faits pour voler de jour et voir le soleil. Donc l'oiseau de nuit ne peut absolument pas sortir au grand jour, sinon il est aveuglé. Et voilà qu'un oiseau de jour s'est amouraché d'une oiseau de nuit. Ça arrive. Et alors... Et alors ces amoureux ont commencé à se parler un petit peu. Donc l'oiseau de nuit, bien sûr, a parlé de ses expériences de nuit, et l'oiseau de jour a voulu parler de ce qui se passait, le soleil et tout. Et puis l'oiseau de nuit lui a dit, moi le soleil j'y crois pas, ton soleil j'y crois pas, tout ça c'est pas possible, nous on vit très bien la nuit, on a tout ce qu'il nous faut. Alors voilà, le scientisme c'est l'oiseau de nuit, et ceux qui sont ouverts à la vérité c'est l'oiseau de jour. Alors comment arriver à ce qu'un oiseau de jour puisse tomber amoureux de l'oiseau de nuit et puis à s'échanger et à, voilà, le problème il est là. Le problème finalement c'est le retour de Dieu dans le monde. Il n'y a pas autre chose. Benoît XVI ne cesse de le répéter, L'urgence, les urgences, c'est le retour de Dieu non seulement dans ma conscience, mais aussi dans l'humanité, dans les droits des nations. Alors, moi, je poserai une question aussi, s'il y a des juristes ici. Oui, pardon. Une question ? Allez-y.
J'ai une question qui va sur un discernement pour des postes à responsabilité. On est confronté aujourd'hui à une vie qui s'accélère. Et à des postes à responsabilité, nous donnons effectivement le rythme d'une société ou d'un service. Et d'un point de vue conscience, nos postes à responsabilité, entre guillemets pour un chrétien, doivent servir Dieu. À un moment donné, on a tous fait l'expérience, lorsqu'on est poussé par nos parents, lorsqu'on pousse nos enfants, La première chose qu'on dit, non, on ne veut pas aller, c'est facile de se relaxer, de regarder la télé, de rester de côté. Donc un certain rythme est nécessaire, et une certaine façon de pousser les gens à faire les choses est bien et va dans l'épanouissement des personnes. et va dans l'épanouissement de l'ensemble d'une société. Donc, à ce moment-là, je considère effectivement que de ce côté-ci, on sert le point de Dieu et nous sommes la voix de Dieu vis-à-vis de l'ensemble de nos employés. Par contre, vient une chose qui est beaucoup plus difficile à discerner et sur laquelle, effectivement, il est très dur de discerner, c'est que si on pousse les choses plus loin, c'est qu'à un moment donné, nous ne servons plus Dieu, mais nous servons la société qui nous écrase et on asservit directement l'ensemble d'une société. C'est-à-dire qu'en poussant les choses à l'extrême, au lieu effectivement de faire grandir l'ensemble d'une société, on la pousse à se recroqueviller sur elle-même et on pousse les gens à l'asservissement complet. Donc, ma question est ici, comment effectivement arriver à discerner le moment où nous basculons dans le moment où nous sommes esclaves et le moment où, au contraire, on fait épanouir l'ensemble d'une société.
Alors, peut-être que Loïc est mieux placé que moi pour répondre, là.
Eh bien, je ne vais pas répondre, je vais vous renvoyer la balle vers Bernard en poursuivant la question, ce qui renforcera la difficulté pour vous d'y répondre. C'est vrai que dans ce que vient de dire Cyril, et en vous écoutant, je me disais, mais si on a un devoir d'objection de conscience qui peut pousser au martyr, parce que vous l'avez dit tel quel, on a aussi des devoirs d'État, parce que finalement, le devoir d'objection de conscience, il est personnel. Mon devoir d'État, c'est de ne pas emmener, pour une prise d'objection de conscience, ma famille dans le mur. Donc finalement, devoir d'objection de conscience, devoir d'État. Moi, j'accompagne des personnes dans le cadre de mon activité qui ont donc pas perdu leur job et qui doivent en retrouver un, et particulièrement deux sortes cette année, enfin de 2010, des financiers, parce qu'ils en ont eu tellement ras-le-bol qu'ils ont effectivement, entre guillemets, fait jouer de l'objection de conscience et ils ont décroché par rapport aux objectifs exclusivement financiers de certaines banques, ou certains organismes, et également des DRH qui ont tellement marre d'être en souffrance d'appliquer ce qu'on leur demande de faire qui va à l'encontre de leurs propres convictions. Donc ma question, elle est devoir d'État ou devoir d'objection de conscience?
Alors là aussi, c'est vrai que l'Église n'a pas une recette magique à donner. Hein, c'est évident. Donc nous comprenons très bien, et je comprends très bien vos difficultés, parce que, bon, je sais que vous avez laissé un travail par respect pour l'être humain, hein, puisque aujourd'hui dans le travail, c'est vrai que vous êtes directeur d'une entreprise qui fait travailler par exemple en France tant de familles, et dans le marché financier actuel, vous savez très bien que si vous voulez faire tourner l'entreprise, il faut aller s'implanter en Chine, en Roumanie, au Bangladesh, où vous allez faire travailler des hommes à 38 euros pour le mois. Hein? Puisque nous avons eu au mois d'août des ouvriers d'une entreprise française qui faisaient grève parce qu'ils voulaient une augmentation de salaire. Ils gagnaient 38 euros par mois et on leur a refusé. Bon. Alors c'est vrai que la question est difficile. Puis-je rester comme directeur de cette entreprise qui ne respecte pas la dignité de l'être humain, mais qui regarde d'abord l'économie. Voilà. Alors on peut retourner la question en disant si mon entreprise croule complètement, ça sera aussi beaucoup de personnes qui seront au chômage. Alors, je comprends que nous sommes là, comme on le disait hier, à cette question du moindre mal. Vous devez faire vivre votre famille, et en même temps, on ne doit pas moralement faire le mal. Voilà. Nous sommes dans des questions souvent insolubles, je le comprends. Et alors, il y a cette question-là. Il y a la question de ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine médical, qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont dans la recherche. Hein, je connais quelqu'un qui était un grand spécialiste de la recherche. Il était le seul de son hôpital universitaire à pouvoir faire des recherches sur les embryons. On a fait une pression sur lui terrible. Il a dit, je suis chrétien, je ne ferai pas des recherches sur les embryons, je ne ferai pas de fécondation in vitro, je refuse. Eh bien, il m'a dit, depuis ce jour-là, ma vie est un enfer. Cet homme vit toujours, je ne vous dis pas son nom, par respect pour lui, mais il me dit, ma vie est un enfer. Voilà, hein, il vit dans la pauvreté la plus totale, hein, et il a fait ce choix-là. Alors, c'est vrai que je comprends. Bon, je comprends la difficulté d'une infirmière à qui on va dire, écoutez, vous allez injecter cela à ce malade. Mais elle a une raison, l'infirmière. Elle a aussi un cœur. Elle dira, mais quel est le contenu de ce que je vais injecter? Et elle n'est pas innocente. Elle sait très bien que la mort va s'en suivre. Donc, nous sommes vraiment là en problème d'une dictature. Voilà, c'est évident. Mais c'est vrai que je pense que c'est là que nous sommes dans le... Vous voyez, les trois degrés de la conscience. Nous, on vous dit... Voilà, nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, nous ne sommes que les serviteurs de l'aide. Alors nous devons dire la vérité. C'est vrai, nous devons dire la vérité. Si nous vous disons, bon, écoute, peu importe, fais comme la mafia, puis voilà. Hein. Bon, les mafioses, ce sont ceux qui sont les piliers de l'Église en Italie. Hein. Bon, eh bien... Eh oui, hein. Bon, ben, évidemment, ben, il faut savoir dire la vérité. Hein. Jean-Paul II a été très sévère contre les mafioses. Hein. Et c'est eux qui font la loi, puisque nous avons parmi nous quelqu'un de l'Italie du Sud. Vous savez ce que c'est que ce terrible combat. Hein. Voilà. Donc, là aussi, ben, nous devons dire la vérité. Et ensuite, vous avez le jugement prudentiel. Votre grâce d'État pour le jugement prudentiel, mais je comprends votre tourment. Et je comprends, et j'ai vu des médecins qui n'en pouvaient plus. Voilà, qui n'en pouvaient plus parce qu'ils sont tous les jours confrontés au problème du choix, un choix moral, et qu'il y a tellement de pression, et bien qu'ils ont préféré. Alors bien sûr, on va faire la médecine du travail, comme ça au moins on est tranquille. On n'a pas chaque jour à aborder ce problème de la vie ou de la mort. Oui. Bon, mais enfin, on prie pour vous. On prie pour vous, et en même temps, c'est vrai qu'on le disait hier, s'il n'y a pas de personnes qui se lancent dans la politique, on va laisser la politique à tous les francs-maçons. Hein, et eux, ils vont faire appliquer les lois. Alors c'est vrai que... Eh bien, il faut qu'il y ait des catholiques courageux qui se lancent et qui arrivent à mettre justement un peu de droit. Alors, c'est la question que je voulais vous renvoyer, justement, s'il y a quelqu'un ici qui est du droit. Il faut dans les études de droit, aujourd'hui, faire réfléchir sur la question d'un état de droit. Qu'est-ce que ça veut dire être état de droit ? Qu'est-ce que ça veut dire être état de droit? Parce que finalement, le droit aujourd'hui, on ne fait que du droit positif. On connaît toutes les lois que... Hein, vous voyez le Conseil constitutionnel. Bon, la réponse du Conseil constitutionnel au sujet du mariage homosexuel. C'est lamentable, cette réponse. Si je dis ça, je me fais... en plus, c'est enregistré. Mais mais c'est lamentable, cette réponse. Parce que le Conseil constitutionnel n'a pu dire qu'une chose. Aujourd'hui, le mariage homosexuel n'est pas constitutionnel. Monsieur le législateur, votez la loi, et demain, le Conseil constitutionnel vous dira, pas de problème, le mariage homosexuel est constitutionnel. Eh bien ça, je me lave les mains. Hein ? Il faut dire avec force, le mariage homosexuel ne pourra jamais être de droit. Jamais. Parce qu'il va contre une valeur non négociable qui est la famille. Et c'est pour ça qu'il faut mettre cette valeur non négociable qui est la famille au premier plan. Même avant le droit pour la vie, si vous voulez. Parce que dans le commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Parce que la famille est fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme. Et là aussi, vous voyez la confusion entre entre la culture et la nature. Hein, aujourd'hui, on nous dit que l'homme et la femme, c'est simplement une question de culture. Ben, ouvrez les yeux. Hein ? Non, franchement, nous avons quand même, au niveau biologique, au niveau psychologique, au niveau de toutes les sciences humaines possibles et imaginables, nous savons que l'humanité est fondée sur la différence entre l'homme et la femme. Il n'y a pas cinq genres humains. Ça, c'est la théorie du gender. Hein, cinq genres humains. Il y a le masculin, féminin, homosexuel, masculin, homosexuel, féminin et transsexuel. Eh bien, ça, c'est faux, c'est un mensonge. Que ce livre de Pierre Simon nous montre ce que veut Pierre Simon, ce que veut la franc-maçonnerie. C'est vraiment une attaque contre Dieu. C'est une attaque contre la vérité. C'est une attaque contre justement la famille, parce qu'on ne veut plus confier à la famille le pouvoir de donner la vie. On veut que ce soit un pouvoir anonyme. Et on veut donner la vie uniquement de telle manière, telle qualité, tous les handicapés n'ont plus le droit de vivre. Voilà, on veut une vie, c'est l'eugénisme. Il ne faut pas avoir peur du mot, on y est en plein dedans. Voilà, et bien ça c'est écrit noir sur blanc par Pierre Simon. C'est écrit noir sur blanc par Pierre Simon. Voilà, alors je crois que là-dessus, eh bien, il faut qu'on soit clair. La vérité s'impose, et la vérité est là. Dieu a créé la famille. La famille a ses lois qui viennent de Dieu, et la famille est fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Et il est important que la mère de... Ah, qui vient de faire le mariage homosexuel la semaine dernière ? De Montpellier soit condamnée immédiatement. Elle est hors la loi. Elle vient en tant que mère de célébrer un mariage homosexuel. Voilà. Et,
hein, elle n'a pas fait sur le registre d'état civil, donc elle a une façon de faire, mais c'est pas rentable. C'est du happening, c'est du partage.
Ah oui. Oui, mais enfin, elle avait son. Elle avait son. Bon, je pense que maintenant c'est le temps de s'arrêter. Donc la messe est à 10h. Et puis à 11h30, on se retrouvera pour alors trois témoignages sans débat après.